devrait tous avoir un contrat à faire pour construire son avenir. Découvrez l'affaire sur afer.fr.
France Inter, il est midi et demi. Carnet de campagne, bonjour. Nous retournons aujourd'hui en région Rhône-Alpes et dans le département de la Loire pour un avant-dernier rendez-vous, puisqu'à partir de mercredi, nous irons dans le Bas-Rhin. Notre carnet commence par un rêve d'enfant de la Loire, bien sûr. Il s'appelle Ghislain Berthelon, il est plasticien. Le futur artiste a poussé dans un village bordé par des bois du parc du Pilat. Dans les campagnes, nous avons tous eu nos cabanes éphémères, nos rêves d'indiens ou d'aventuriers, nos arcs en noisetier ou nos échelles improbables en lianes sauvages. Les années ont passé, mais les dessins de cabanes persistent dans la mémoire. Et c'est en rencontrant un architecte que Ghislain a exhumé ce vieux rêve, ce bout d'aventure de recréer une cabane d'une certaine manière. L'idée a pris rapidement forme en mettant en place un événement où se rejoindraient art et architecture. Ainsi est née une association très particulière qui s'appelle le Laboratoire d'art impliqué, un peu engagé sur les bords. Le laboratoire a ensuite enfanté donc une manifestation du haut des arbres. Alors c'est un jeu de mots aussi, un duo. On les aime bien, duo, D-U-O-S, voilà. Je dis ça à Marie, qui me regarde en face, disant qu'est-ce qu'il raconte comme jeu de mots. Le principe en est simple, créer des binômes, artiste, architecture. Non, parce que c'est plus simple à voir qu'à entendre. Si vous voulez qu'on vous lise le texte, vous dites, bah oui, c'est évident. Et réaliser une construction pensée dans le plus grand respect du site du parc et de ses qualités naturelles. Il y a 10 créations qui sont prévues, 8 réalisées par des professionnels, donc des artistes et des architectes, et 2 par des enfants encadrés par des étudiants de l'école de design de Saint-Étienne et de l'école nationale d'architecture. Au-delà de l'originalité de l'opération, les engagés du laboratoire sensibilisent un grand public sur l'équilibre fragile du parc du Pilat et ses 700 km² face à une des plus importantes densités de population au cœur d'un site naturel référencé. Un appel à projet avait été lancé en juin dernier, suivi d'une présélection des dossiers, enfin d'une sélection finale. Le montage des sites d'exposition des 10 sites débutera à la mi-mai pour une ouverture le 31 mai, je vous le dis déjà, donc à partir du 31 mai dans le parc du Pilat. Une visite du site de la manifestation est possible et même conseillée à l'adresse suivante, www.duo-des-arbres.com, donc www.duo-des-arbres.com. Au sommaire du jour, un accompagnement très original, encore une fois, des publics en difficulté. La première des difficultés est la mobilité, aller sur un lieu de formation ou de travail par exemple, entreprendre des démarches sans connaître le fonctionnement des services ou louer tout simplement le véhicule, enfin un véhicule, le temps d'un entretien. Aide Auto 42 répond à toutes ces questions. Le principe marche, ou plutôt roule très bien, tellement bien que l'association, représentée aujourd'hui par Cécile Rava, a enregistré 1 000 000 de prestations sur l'année écoulée. Quant à la préoccupation majeure des Français après le pouvoir d'achat et le temps, on en parle beaucoup. Or, de plus en plus, des groupes d'études météorologiques se créent partout en France. Un exemple aujourd'hui avec l'association météorologique d'entre Rhône et Loire, installée à Pierre-Bénite avec René Serrière. Bonjour Cécile Rava.
Bonjour Philippe.
Vous êtes chargée de développement au sein d'une association encore très originale, Aide Auto 42.
Oui.
Le siège est à Vauche. Aide Auto, c'est de l'accompagnement, je cite, de publics en difficulté de mobilité sur le département de la Loire.
Ouais,
mais ça va beaucoup plus loin. Vous proposez des infos sur les transports, de l'allocation de matériel, c'est-à-dire de voitures ou de cyclomoteurs, du transport accompagné à la demande, de l'aide à l'autonomie de déplacement, des actions de formation, de l'accompagnement socio-professionnel et du covoiturage.
Oui, on a à peu près une quinzaine de personnes à travailler donc au sein d'une association pour aider des personnes à devenir autonomes dans leurs déplacements.
Ces personnes sont de quel profil ?
Alors, beaucoup demandeurs d'emploi, chômeurs longue durée, en tous les cas des personnes en difficulté, socio-professionnelles.
Et vous êtes aussi un atelier de chantier d'insertion ?
En fait, c'est pas une forme juridique en particulier, mais beaucoup d'associations d'insertion ont cette caractéristique-là, c'est-à-dire embauchent dans leur structure des personnes salariées, qui sont elles-mêmes en insertion pour une période temporaire, quoi, hein, les contrats allant à peu près de 6 mois à 2 ans maximum.
Ce que vous avez à faire, c'est d'abord accompagner ces personnes vers un emploi, c'est le premier objectif.
Oui, vous avez bien raison, c'est ça en fait. Hein. On a différents services qui sont plus ou moins importants, le covoiturage étant une de nos activités, qui n'est pas la principale malheureusement, mais qu'on essaye en tous les cas de promouvoir, aussi bien auprès de personnes en difficulté, c'est-à-dire d'utiliser un service supplémentaire de déplacement plus des transports publics, qui pourraient donc utiliser le covoiturage ponctuellement pour aller au boulot, mais nos autres activités sont en tous les cas plus importantes en termes d'ampleur, quoi. Hein.
Mmh. Et on va jouer sur les mots, parce que quand on parle de parcours, évidemment, il y a un déplacement, mais aussi un parcours psychique, professionnel à suivre, donc vous n'êtes pas uniquement une association d'aide au déplacement, mais c'est aussi participer aux démarches dans la recherche de l'emploi.
Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la particularité des associations d'insertion. On remplace le profit par des missions philanthropiques, je dirais. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la personne. C'est ce qui fait aussi l'intérêt des personnes comme moi qui travaillent dans ce type d'association. C'est d'intéresser aux personnes, qu'elles soient bénéficiaires ou qu'elles soient salariées chez nous temporairement. On essaye de les accompagner, mais avec ce qu'elles ont, elles, comme qualité, comme compétence, de les développer et de les aider à parfois faire une formation, par exemple, pour se qualifier, pour mieux être aguerri sur le marché du travail traditionnel, en fait. Mmh. Voilà.
Sur l'année 2007, vous avez proposé 1 000 000 de prestations.
Oui, on a même, je me suis intéressée ce matin aux chiffres pour vous donner les derniers résultats. On a même à peu près rendu service à hauteur de 1 200 prestations pour à peu près 700 bénéficiaires sur l'ensemble du département.
Et parmi ces 700 bénéficiaires, Cécile, il y a 60% de femmes.
Oui. Alors on sait malheureusement hein, que les femmes sont les plus touchées par le chômage, les femmes et les jeunes. Donc on intervient, c'est assez représentatif des résultats nationaux hein, en matière de chômage, d'insertion socio-professionnelle. On intervient auprès des femmes en particulier, oui.
Et Aide Auto 42 financièrement fonctionne comment ?
Alors fonctionne, essaye de fonctionner, parce que c'est pas toujours évident, de fonctionner avec principalement des fonds publics. Donc qui nous viennent du Fonds Social Européen, FSE, de la région, du Conseil Général, de la Loire, et puis avec des aides privées parfois.
Alors, il y a un souci dans votre démarche, parce qu'elle est belle votre démarche, Cécile Rava, c'est
oui.
Évident. C'est que j'imagine que vous avez beaucoup de demandes, vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes, vous procédez à une sélection ?
Pas l'association, c'est-à-dire que les personnes qui nous sont envoyées, que nous on appelle bénéficiaires, nous sont prescrites par des structures comme la NPE, des missions locales, le Conseil Général quand on doit intervenir auprès de RMistes. Les sélections sont faites en amont, en fait. Hein, donc nous, on est là où il y a un manque, en fait, hein, où l'État, en tous les cas, les transports tels que les bus, ne peuvent pas intervenir.
Vous avez un site internet, j'imagine.
Oui, tout nouveau, tout beau.
Bravo.
Qui est accessible sous l'adresse www.aideauto42.fr, tout attaché sans apostrophe.
Vous aurez accès à ces services, à toutes les prestations, et elles sont nombreuses, elles sont remarquables, vous faites un sacré boulot.
Merci.
Et un grand salut à tous les autres qui sont à vos côtés. Merci Cécile, au revoir.
Merci, au revoir Philippe.
Carnet de campagne sur France Inter.
René Sorrière, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci pour le cafetage de l'association météorologique d'entre Rhône et Loire. Vous êtes le cofondateur avec Michel Gagnard, association créée il y a un petit peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans, c'est en février 2005. Vous êtes tous météorologues amateurs.
Exactement. À l'heure actuelle, notre association en regroupe 58 ou 59. Nous nous intéressons essentiellement au climat et à l'observation des 2 départements du Rhône et de la Loire, mais nous avons des adhérents, donc des météorologues amateurs, qui habitent d'autres départements, mais qui sont intéressés par ce que nous faisons et ce que nous publions.
Et aujourd'hui, René, la météo est la préoccupation première, les changements climatiques, les transformations. Vous êtes dans plus le constat que dans la prévision ?
Ah oui, oui. Les météorologues observent, donc constatent, comme vous dites, ceux qui font de la prévision, on les appelle des météorologistes. À commencer par, j'ai un nom qui me vient, hein, Joël Collado, par exemple, qui est un ingénieur météorologiste. Nous, nous sommes dans le constat. Les uns et les autres, dans notre association, il y en a 35 qui ont une station météo quasi professionnelle. Le tout est enregistré et le tout est publié. Alors, publié sur Internet, mais également publié dans une revue mensuelle qui paraît depuis la création de notre association. Nous en sommes au numéro 33.
Quand vous parlez de station météo, parce que avec vos adhérents, donc vous avez plusieurs points de mesure sur la Loire et le Rhône. Le premier matériel, c'est dans une station, c'est le pluviomètre.
Le pluviomètre, c'est important, mais il y a aussi l'enregistrement des températures, mais également de l'hygrométrie, de la pression atmosphérique.
Alors, pour entretenir toutes ces informations entre les mains, vous avez un journal au fil du temps.
Oui.
Et puis surtout, vous faites, et c'est bien, parce que là, c'est quand même scientifique, on peut être amateur, mais le faire très sérieusement, vous participez à une promotion de la météorologie. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont friands de cette science?
Ah oui, moi je le crois. J'en rencontre beaucoup dans ma commune, entre autres. D'ailleurs, parmi les membres de notre association, il y a un collège. Ça les intéresse beaucoup. Ils se posent des questions.
Par exemple, quel est le rôle de l'anticyclone atlantique? Parce que ça fait partie de l'éditorial du numéro de décembre.
Oui, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une dépression ou qu'un anticyclone, sauf ceux qui regardent d'à peu près des cartes météo, aussi bien sur le net qu'à la télé.
Alors que s'est-il passé avec l'anticyclone atlantique en septembre?
Eh ben, c'est une première depuis qu'il y a des relevés météo scientifiques, c'est-à-dire grosso modo depuis 130 ans, hein, même au niveau de l'Europe. Jamais on n'avait vu l'anticyclone rester aussi longtemps, plus de 3 mois, sur l'Irlande, là sur le nord de la Grande-Bretagne, jamais.
Et quelles sont les conséquences d'une présence aussi longue d'un anticyclone?
Ben, c'est d'entraîner on est comme sur le couvercle d'une marmite, ce qui fait qu'il n'y a plus d'humidité qui circule, et ça bloque le temps, le climat.
Parfois on parle de microclimat. Est-ce que votre région de couverture, sur Rhône et Loire, possède des microclimats?
Ah oui, oui, ça c'est visible à partir de la carte de relevé des stations. Alors, vous signaliez, puisque je vous l'avais envoyé, le numéro de décembre de notre revue, il y a vers la fin, avant les tableaux, une carte qui montre bien les coins où, pendant le mois de novembre, les coins où il avait fait beaucoup plus chaud qu'ailleurs et des fois à 10 kilomètres de distance. Mais ce qu'on constate, nous, c'est très net, c'est le réchauffement des moyennes de température. Bon, ça vaut pour toute la planète, mais alors pour nos deux départements, c'est notoire. Hein.
La revue est drôlement bien faite, c'est très sérieux, avec les relevés de température, de pluviométrie, de toutes les stations de votre région, et vous faites un sacré beau boulot, et vous avez de plus en plus de membres, et tant mieux. D'ailleurs, nous allons donner le site de votre association.
Il suffit de prendre n'importe quel moteur de recherche, on tape Météo Rhône-Loire, et notre site apparaît en première ou deuxième position, de même pour notre forum. Il y a une chose que je voudrais dire,
oui.
C'est que la météo n'a jamais nourri son homme. C'est un service public qui est intégralement financé par l'État. Nous sommes, nous, tout à fait indépendants de Météo France, on n'a rien à voir, même si on les connaît bien. Et une association comme la nôtre, et ce que nous faisons, en particulier publier, aider les uns ou les autres à s'équiper en matériel, nous n'y arrivons que parce que nous avons quelques mécènes. Pas assez, plus on aura de mécènes, plus on pourra développer nos activités.
Eh bien, on va vous en trouver, René.
Ça serait sympa.
Je vous souhaite une bonne journée, René Serrière. Merci beaucoup.
Merci, Philippe.
Au revoir. Une alerte vient de nous parvenir concernant les voisins du Rhône où nous étions il y a quelques jours et les clients du TNP de Villeurbanne dont j'ai parlé le 4 janvier dernier pour cette saison très particulière puisqu'elle va s'achever en avril prochain afin de laisser place aux travaux de construction du nouveau théâtre, du nouveau TNP de Villeurbanne. J'avais annoncé le spectacle Zouk par Zouk avec Nathalie Baye. Alors la comédienne a annulé sa tournée, donc sa série de spectacles et de soirées à Villeurbanne. Le TNP vient de nous en informer. et nous faire savoir que depuis notre annonce, le standard du théâtre avait vraiment explosé et on ne nous croit plus, écrit Anne. Bon, ça me plaît beaucoup. Vous êtes tellement vigilant que vous avez appelé le théâtre et on dit non, c'est annulé. Mais non, à Inter, ils l'ont dit dans les carnets de campagne. Enfin bref, si j'avais voulu faire un test d'assiduité d'écoute, j'aurais pas mieux inventé. En tout cas, je suis désolé pour vous et pour toutes les personnes qui se sont ruées sur leur téléphone ou au bureau des réservations du théâtre. En revanche, les jardins de Volpette ne sont pas une fiction. Nous sommes à nouveau dans le département de la Loire, à Saint-Étienne, et c'est Jean qui nous en informe. L'association Les Jardins de Volpette, nom du fondateur de ces jardins destinés jadis aux mineurs, a été créée pour pérenniser cet espace qui est socialement très utile. Aidé par la ville et le département, cette structure compte aujourd'hui 1400 jardiniers, autant de jardins regroupés en une quarantaine de sections. Toutes les origines sociales et nationales y sont représentées. On y trouve même des sans-papiers, ajoute Jean. Le supplément d'âme de ces jardins est non seulement de promouvoir une culture biologique, mais aussi le recyclage des déchets végétaux par le compostage et la récupération des eaux de pluie. De plus, ces jardins accueillent des visites de groupe des écoles ou des maisons de retraite. Ça s'appelle autrement dit cultiver du partage et des échanges, donc les jardins de Volpette à Saint-Étienne. Et à propos de déchets, c'est le journal du Progrès qui nous en informe aujourd'hui. Une jeune entreprise stéphanoise vient de réaliser un logiciel de gestion des déchets. Cet outil, dit le journal, va être présenté au ministère de l'Environnement. L'entreprise s'appelle Logic et l'invention a reçu le nom de Inuksuit, inspiré du mot esquimau Inuk, qui désigne l'homme au